Ecclésiaste chapitre 11, les six premiers versets. Pardon à ceux qui utilisent comme moi habituellement la version du Semeur. Je lui ai préféré pour cet exposé second pour la ces quelques expressions, quelques mots particulièrement accrocheurs. Mais les versets l'un après l'autre seront projetés, donc pas de souci pour vous. Je fais la lecture. Jette ton pain à la surface de l'eau. 11, les six premiers versets. Jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils la déversent sur la terre. Et quand un arbre tombe, que ce soit vers le sud ou vers le nord, il reste là où il est. Qui observe le vent ne sèmera pas. Qui regarde les nuages ne moissonnera pas. De même que tu ne sais nullement le chemin du vent, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même, tu ignores l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si les deux ne seront pas également bons. L'inacceptable invitation. Jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. Alors nous voici en quelque sorte plongés, c'est le cas de le dire. En plein délire. Tout dans ce texte paraît contraire à la raison. L'action. Jette ton pain. Le pain qui représente tout ce qui est nécessaire à la vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Non, on ne jette pas le pain. À la rigueur, se résignera-t-on parfois à perdre quelque chose. Mais jeter. C'est perdre volontairement, c'est faire exprès de perdre. Alors, tout, mais pas ça. Pas seulement l'action, le lieu, à la surface de l'eau, qui va l'emmener, qui va le détruire, et en tout cas, le rendre inutile. Et puis le motif. Avec le temps, tu le retrouveras, le comble, non ? Jeter son pain, le jeter dans l'eau, et pourquoi ? Pour le retrouver, et compter sur le temps, comme si le temps allait augmenter la chance de le retrouver. Décidément, tout est à l'envers. Si je jette, la perte sera définitive. Si je veux retrouver, il faudrait peut-être mieux que je commence à ne rien jeter. Et il nous faudrait, parce qu'on le perçoit bien, évidemment, il nous faudrait prendre cette exhortation pour nous comme un principe devant régir notre activité, et cela de la bouche même de Dieu. Si donc cette invitation venant du Seigneur est à nous destinée, forcément, plutôt que de nous hérisser, peut devenir acceptable, alors il vaut la peine de tenter de comprendre. Bah, vous avez peut-être bien fait de venir. C'est ce que nous allons faire en deux temps. D'abord, examiner les raisons d'agir ainsi. Ces raisons sont exposées du verset 2 au verset 6. pour ensuite, revenant au verset 1, en saisir le sens profond pour notre vie, pour notre activité, pour une activité utile pour Dieu. Alors, voyons d'abord les arguments des versets 2 à 6, où « Pourquoi jeter son pain sur l'eau pour le retrouver ?» Cinq arguments, un par verset, dans un ordre progressif. C'est-à-dire que on percevra que le premier n'est pas forcément très convaincant, peut-être, mais les arguments suivants se font de plus en plus forts, donc de plus en plus convaincants. Et nous verrons qu'en même temps, apparaissent petit à petit les éléments qui vont nous permettre de donner tout son sens au mot-clé qui est utilisé ici, c'est « jette ». Verset 2. « Donne une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Première lumière, jeter égale partager. Partager comme on partage une tarte en plusieurs morceaux. Partager parce que nous avons des moyens de partager. Partager avec des frères, des proches, voire des inconnus qui ont des besoins. Partager parce que nos moyens peuvent subvenir à ces besoins. Le premier argument est là. Pourquoi partager? Car tu ne sais pas quel malheur peut survenir ici-bas. Les temps changent. Changent aussi les situations dans lesquelles nous nous trouvons, quelquefois d'un instant à l'autre dans la vie. Ainsi vient l'épreuve. Et voilà que c'est nous qui avons des besoins. Et cela nous fera tellement de bien alors que des frères, des amis, quiconque partageant à leur tour, viendront répondre à notre besoin, nous donner de leur temps, etc., etc. Partager, parce que ça nous arrivera aussi d'être dans le besoin. On voit bien, oui, que c'est pas peut-être pas le meilleur argument. Parce que dans cette conception, donner ainsi, c'est en quelque sorte calculé. C'est donner dans le but d'un éventuel retour. C'est se faire des amis pour que ceux-ci nous aident à leur tour le jour où nous en aurions besoin. C'est l'argument de la logique humaine, c'est le bon sens. Parce que, qui sait ? C'est le sens, qui sait que tour à tour, nous avons tel ou tel besoin et que, en conséquence, s'impose finalement la solidarité de tous. Verset 3. Il y a là deux images. Voici la première. Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déverse sur la terre. On peut ne voir ici qu'une insistance par rapport au verset précédent. L'orage vient, l'épreuve nous atteint, chacun, un jour ou l'autre, mais quand, sous quelle forme, où, nous l'ignorons. Donc, partageons. Le retour nous sera certainement un jour bien nécessaire. Mais il y a plus significatif, je pense, dans ces images. Les nuages gonflés de pluie, c'est nous. Chacun de nous. Petit ou gros nuage, mais plein d'eau. De l'eau destinée à une terre desséchée. Une eau qui constitue notre richesse à nous et qu'on va déverser sur celui qui en a besoin. Et l'argument est là. Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déverse, il pleut. Il n'y a pas d'alternative. Le nuage ne gardera pas sa pluie. Il la déversera. La terre en a besoin. Le nuage est fait pour répondre à ce besoin. Pourquoi partager ? Pourquoi faire du bien ? Parce que c'est notre rôle de nuage. Et pour le remplir, nous en avons les moyens, avec l'invitation à ne pas trop les retenir. Attention, précise la seconde image. Quand un arbre tombe, que ce soit vers le sud ou vers le nord, il reste là où il est. Ce qui est aujourd'hui possible deviendra un jour impossible. On a un certain temps pour être généreux. Parce que l'arbre qui tombe un jour, c'est encore nous. Et quand un arbre tombe, que ce soit vers le sud ou vers le nord, il reste là où il est. Vient le moment où les riches que nous sommes seront démunis de tout. À cette heure-là, on ne partage plus. On ne donne plus. Raison de plus pour donner aujourd'hui aux autres ce que nous sommes appelés à leur apporter. Les arguments qui suivent visent à lever les obstacles. Mais résumons. En somme, je dis, jeter mon pain, c'est partager, c'est donner, c'est faire du bien. C'est la logique de la solidarité humaine. En tant que disciple, c'est la mission que Dieu me confie pendant le temps de vie qu'il me donne et qui aura une fin. Eh bien, d'accord. Mais j'ai des objections à émettre parce que je vois bien aussi qu'il y a sur cette route des obstacles. Premier obstacle, les risques qui observe le vent ne sèmera pas. Qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Le vent peut venir balayer la semence. Et à la moisson, tout peut être cassé, inondé, pourri par la pluie. Sachant cela, que fait l'agriculteur sensé ? Il sème quand même. Et alors même que sa récolte est détruite, il sait déjà que l'an prochain, il sèmera encore. Parce que s'il ne semait pas, il ne moissonnerait pas non plus. Et la situation serait pire. Quand on sème, on peut avoir une récolte. Mais certainement pas si on ne sème pas. Et qui plus est, ce serait alors de sa faute. Tel est le troisième argument. Et c'est un argument fort, celui-là. Des dégâts seront encore commis sur nos terres. Et la semence qu'est la parole de Dieu détruite, en particulier dans le cœur de ceux chez qui elle aurait dû croître parce que nous l'y avons semée. Mais si, constatant cela, vivant cela, nous en venions à ne plus partager, à ne plus faire de bien, à tout retenir pour nous, à ne plus semer la parole, à ne plus témoigner de l'amour de Dieu, alors, plus de secours pour le prochain qui en a besoin, plus d'eau pour celui qui a soif, plus de blé qui pousse, plus de fruits sur notre arbre, plus rien à récolter, plus de moisson. En somme, plus de salut possible. Oui, il y a des risques. L'Ecclésiaste nous invite à les prendre. Le deuxième obstacle, c'est notre ignorance. L'ignorance dans laquelle nous sommes sur ce qui va se passer dans l'avenir et sur ce que va produire ce que nous faisons. C'est le verset 5. De même que tu ne sais nullement le chemin du vent, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même, tu ignores l'œuvre de Dieu qui fait toute chose. Oh, verset admirable. Parce que nous allons le voir, il s'appuie sur notre argumentation pour la renverser. Que dit donc l'Ecclésiaste dans son quatrième argument? Il ne réfute pas le risque. De la même manière, il affirme, il confirme l'ignorance présenté comme une nouvelle objection. Oui, tu ne sais pas. Le vent, l'orage, l'arbre qui tombe, la semence qui pousse ou qui pousse pas, tous les mystères de la vie, y compris les dangers, les malheurs, et le comment et le pourquoi des choses, des hommes, des événements, etc., etc. D'accord. Tu ne sais rien. Franchement, il abuse un peu parce que il va encore plus loin. C'est un peu comme, j'ai eu le sentiment dans ce texte, que comme, un peu comme s'il me regardait en face. Parce qu'il me dit, tu vois, il y a une autre chose que tu ne sais pas. Tu ignores aussi ce que Dieu fait. Qui fait tout. Argument choc. À cette ignorance qui réduit, qui paralyse parfois l'activité, la générosité, le témoignage. Parce que si je jette mon pain, si je partage, si je sème, je ne sais pas si cela produira du fruit ou pas. Ou quand, ou comment, à cette ignorance, il en rajoute une autre. Ce que Dieu fait, tu l'ignores aussi. Et alors là, le disciple sursaute dans sa conscience. Ouais. Mon ignorance sur le mouvement du vent ne l'empêche pas de souffler, de suivre son chemin. Et que je ne sache pas comment se met à battre le cœur de l'embryon, cela l'empêche-t-il de devenir un beau bébé? Et Dieu, j'ignore tout ce qu'il fait. Mais il fait. Il fait tout. Il dirige tout. Il maîtrise tout. Qu'est-ce que ça change que je l'ignore? Si Dieu fait tout, et ça je le sais, alors tout peut basculer. Et l'inacceptable invitation à jeter, devenir le modèle d'attitude que Dieu me demande de vivre. dès le matin. Sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas précisément ce qui réussira, ceci ou cela, ou si les deux seront également bons. Suprême argument, l'ignorance de ce qui va se passer, et tout particulièrement des résultats. Loin d'être un motif d'abstention, est une raison d'agir. Parce que tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela. Parce que, de plus, les deux peuvent très bien réussir. Alors sème. Et c'est donc ici la conclusion de toute l'argumentation du verset 2 au du verset 6. Sème. Partage avec beaucoup. Déverse tes bienfaits sur les autres tant que tu peux. Malgré les risques qui pèsent sur ton œuvre. Parce que même si tu l'ignores, Dieu agit, qui fait tout. Nous nous arrêtons un instant sur cette poignée d'arguments. Outre leur objectif, ils ont chacun deux caractères communs. Ils sont simples, et parce qu'ils sont simples, ils sont forts, partagés. Tout le monde sait ce que cela signifie, depuis le plus jeune enfant qui fait l'expérience de sa difficulté à partager, sans doute. Et cette nécessité est forte, partagée. C'est la condition humaine qui l'exige de façon universelle. Aujourd'hui, d'ailleurs, plus que jamais, les plus hautes instances internationales le disent, la solidarité s'impose. Quant aux chrétiens, c'est la mission que Dieu lui confie pour le monde. Partager ses biens, son temps, sa capacité à faire, bien sûr, sa connaissance de la bonté de Dieu, bien sûr, de son salut. Bien sûr, de son expérience à lui, de la présence de Dieu dans sa vie. Accueillir, être présent, accompagner, soutenir, compatir, etc. Et de cette manière, semer. Semer pour l'avenir, pour que demain, l'autre devienne vraiment autre, c'est-à-dire sauvé. Changer, fortifier, fidèle. Simple et fort, ces arguments, comme l'évidence. Sème. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y aura pas de moisson. C'est une évidence. Et fais-le d'autant plus que tu ignores ce qui, chez l'un ou chez l'autre, produira de bons résultats ou n'en produira pas. C'est sans objection possible. Nous ignorons tout, et les risques ne manquent pas, qui pèsent sur notre avenir personnel comme sur celui de l'Église. Nous les vivons, ces risques, particulièrement, on l'évoque souvent, avec nos proches qui résistent encore à la grâce de Dieu, avec ses disciples à côté de nous qui reculent ou qui renoncent. Qui contestera que ce soit une atteinte à notre enthousiasme, un frein à notre élan, quand ce n'est pas l'envie de les suivre? Mais si peiné de subir tant d'échecs et de cueillir si peu de fruits, certain que l'avenir nous réserve encore bien des souffrances, nous abandonnions. Alors la situation serait pire, Assurément. Il peut y avoir des gerbes si nous semons. Mais une moisson sans semaille, ça n'existe pas. Ces arguments, simples et forts, retrouvons-les toujours. Lorsqu'il nous arrive, tant est forte l'influence du monde et tant nous prend l'envie de renoncer, ce sont les évidences de Dieu. Alors nous voici au cœur même de notre texte, qui contient, qui résume tous les arguments que nous venons d'évoquer et qui va encore plus loin. On dirait que c'est déjà pas mal, hein ? Plus loin. Jette ton pain à la surface de l'eau. Avez-vous bien entendu, bien lu ? Il n'est pas dit partage ici. Il n'est pas dit déverse ici. Il n'est pas dit sème ici. Il est dit jette. Jette, c'est l'insupportable mot. Le mot de notre révolte contre la pensée de Dieu. Tout, mais pas ça, disions-nous au début. Mais dans la volonté du Seigneur pour nous, tout est là. Jette. Rien d'autre, rien de moins. J'aurais, c'est vrai, préféré rester au niveau des arguments. On est toujours à l'aise dans la théorie, c'est-à-dire dans la démonstration. Mais Dieu sait qu'il faut plus que les arguments, même simples et évidents, pour fonder une attitude et entraîner l'action. Jette. Parce que si tu n'acceptes pas de jeter, c'est-à-dire de perdre. Oui, si tu n'acceptes pas de perdre, alors tu ne partageras jamais. Tu garderas tout pour toi, ce que tu as, tout ce que tu es. Tu te fermeras dans ta maison. Jette ton pain qui est à toi, qui est utile à ta vie. Ton pain qui est le produit de tes efforts, le résultat de ton travail, et qui est bon, et dont tu as envie, et dont tu as besoin. Jette cela, dit le Seigneur. Et pour qu'il n'y ait vraiment plus d'illusions, et plus de semblants possibles dans cette situation, il précise, jette ton pain dans l'eau. C'est-à-dire en pure perte. Accepte de faire une part de ce que tu as, une part de ce que tu es, et que ce soit perdu, irrémédiablement perdu, comme du pain frais, croustillant, qu'on irait jeter en Saône. Si tu acceptes cela, me dit l'Ecclésiaste, si tu acceptes qu'une part de ton argent soit perdue pour toi, que ta maison appartienne un peu aux autres parce que tu les y recevras, que ton temps soit perdu quand tu le leur consacreras, que tes forces soient utilisées éventuellement pour rien, alors te voilà libéré. Libéré de toutes les objections. Parce qu'alors, peu importe les obstacles, peu importe les risques, il y aura du vent, il y aura des tempêtes, même, il y aura des bonnes choses méprisées, abîmées. Mais quel problème, puisque j'aurais déjà tout donné, tout perdu. Mon ignorance du bon ou du mauvais terrain, des résultats, des échecs, Et le temps qui passe sans qu'aucun fruit n'apparaisse. Peu importe. Je n'attends rien puisque j'ai déjà tout jeté. C'est alors. Alors seulement qu'on peut vraiment partager, donner, semer, jeter, parce que c'est finalement la seule chose que je sais. Jette, j'ignore tout, mais pas ce que le Seigneur me demande, qui me dit jette. Jeter, parce que jeter, c'est tout abandonner à Dieu, qui fait toutes choses. Et ça aussi, je le sais. Tout remettre à sa grâce. Et les fruits que j'espère, et les refus que je crains. En venir à jeter, parce que ce serait la seule chose que je veux. Choisir de jeter. Vouloir perdre pour le Seigneur, parce que c'est notre mission. Jeter, alors, tout naturellement, de façon irrésistible, comme le nuage déverse sa pluie, sans pouvoir la garder pour lui-même, mu par une force d'en haut, jeter, parce que ça va faire du bien à beaucoup. Quelques-uns seront sauvés, fortifiés, encouragés, parce que la semence va grandir et préparer la moisson. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Incroyable promesse, immense encouragement, tu le retrouveras. Ce que nous aurons choisi de perdre ne sera pas perdu, mais retrouvé. Retrouvé comme les bonnes choses qu'on a faites aux autres se retrouvent dans celles qu'on reçoit un jour d'eux. Retrouver une certitude, parce que Dieu donne du fruit à nos dons, c'est promis. L'un, l'autre, les deux peut-être, dans longtemps peut-être, mais du fruit. Retrouver, comme dans l'épi qu'on ramasse à la moisson, on retrouve la semence dedans, et le travail qu'on a accompli, et les efforts qu'on a faits, et le temps qu'on a passé, et le prix qu'on a payé. Retrouver, comme on retrouve quand Dieu agit, comme on reçoit quand Dieu donne. Parce que dans le grain qui a été jeté, perdu, abandonné, il y a plus, il y a beaucoup plus que l'infime part de notre contribution. Il y a l'immense et bienfaisant travail de Dieu qui l'a transformé, qui l'a multiplié jusqu'à la moisson. Amen.